Bonjour à toutes et à tous, je suis Gérard Colavecchio du CLIMI et vous souhaite la bienvenue à la troisième émission des souris des lettres en direct d'Intertis, au carrefour des usages pédagogiques du numérique au CNIT de la Défense. Parrainé par Madame Pinsard, IPR de lettres et piloté passionnément par Philippe Godiveau, pour le groupe TIS et lettres, nous serons en compagnie d'Adeline Buisson, Baptiste Voisin, Rachel Pinault, Serge Bounic et Christian Perrier. Merci à Eric Bureau du CLIMI qui pilote la réalisation technique de l'émission. Enfin, merci au CRDP de Versailles de nous accueillir dans ce lieu prestigieux.
Les souris et les lettres.
À l'heure où les technologies de l'information et de la communication envahissent massivement nos écrans, nos écrits, à l'heure où la notion de frontière n'existe pas sur Internet, il faut trouver de nouveaux chemins d'apprentissage, de réflexion, pour y placer des balises, des repères pour nos élèves, pour les enseignants. C'est pourquoi le thème de l'émission d'aujourd'hui est travailler autrement avec les TIS. Adeline Buisson va nous faire part de ses réflexions autour des TIS. Adeline.
Je m'adresse cet après-midi aux enseignants qui redoutent l'évolution du métier à cause de l'intégration massive des nouvelles technologies. Et je voudrais leur dire ceci, nous ne sommes pas les premiers à redouter la confrontation de deux cultures. Bien avant nous, Chateaubriand en avait fait l'expérience. Souvenons-nous de cet extrait des Mémoires d'Outre-Tombe.
Je me suis rencontré entre deux siècles, comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où je suis né, nageant avec espérance vers une rive inconnue.
Quelque part, les profs d'aujourd'hui sont eux aussi entre deux siècles. Reste à savoir maintenant de quel côté du Rousseau on va se retrouver. Et si Chateaubriand avait de l'espérance, alors pourquoi pas nous? Il faut bien dire qu'on a vraiment de quoi désespérer. Quand on donne aux élèves une recherche documentaire, ils impriment Wikipédia. Quand on leur parle musique et cinéma, eux répondent téléchargement, iPod. Quand on insiste pour qu'ils rédigent leurs réponses, ils chattent sur MSN. Nos ados sont friands de ce qu'on n'en finit plus d'appeler les nouvelles technologies, et qui d'ailleurs, à force d'être appelées comme ça, vont finir par ne plus être si nouvelles. On les croit, ces ados, plus habiles que nous dans le maniement de ces outils, et pourtant, il y a là un paradoxe à souligner, et sans doute à combattre, qui est que les jeunes vivent dans un monde de l'ultra-communication, mais qu'ils s'enferment dans leur bulle numérique. Écoutons l'analyse de Joël Deronet, qui est le co-directeur de la Cité des sciences et de l'industrie.
Les jeunes ont externalisé les processus cognitifs. Aujourd'hui, leur mémoire, ils n'en ont pas, ils vont sur Google. D'ailleurs, ils font du copier-coller dans tous leurs devoirs. Ça, maintenant, c'est ça. Deuxièmement, ils veulent un avis sur quelque chose, ils vont sur des blogs et des forums, ils demandent aux autres que tu as vu ce film, qu'est-ce que tu en penses. Ils s'envoient des SMS et des textos. Donc, comme ils ont externalisé les processus cognitifs, leur tête est remplie de rien du tout, elle se remplit, elle se vide à toute allure. Garbage in, garbage out, comme on dit. Et en général, ce qui remplit leur tête, c'est de la violence et de l'émotion. Alors, je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est à nous, parents, élèves, éducateurs, de donner des références, des référentiels, pour que toute cette information qui rentre puisse se classer, s'organiser dans ce cerveau, dans cette tête vide de ces jeunes.
En tant qu'enseignant, il nous appartient peut-être de faire comprendre aux élèves l'importance d'une communication de qualité, l'ancrage dans la vie réelle et sans compter évidemment l'importance du regard critique. C'est notre rôle, quelque part, de transformer ces autistes numériques, l'expression n'est pas de moi mais de Jacques Attali, en citoyens responsables. Dans cette même conférence, Joël Deronet présente des statistiques tout à fait effrayantes sur nos ados.
Effectivement, Adeline, pour avoir mené une enquête au niveau européen baptisée Mediapro, le CLIMI avait publié en 2006 une synthèse qui retrace d'ailleurs cette étude que va nous montrer Joël Deronet.
Et enfin, dernière statistique qui est terrifiante, un ado de 12 à 16 ans passe 1500 heures par an devant 4 écrans, 750 heures devant la télévision, et le reste se partage entre le téléphone portable, le MSN, le jeu vidéo. La classe représente 480 heures, dont 150 heures de sortie en plein air, etc. 480 par rapport à 1500.
Non.
Et le quality time avec les parents, c'est-à-dire la parole avec les parents, pas seulement va te coucher, il est trop tard, est-ce que tu as fait tes devoirs, passe-moi le sel, mais qu'est-ce que tu penses, tu crois que Barack Obama a une chance? Ce genre de conversation, 80 heures par an, en moyenne en France. Là, il y a un problème. Il y a un problème d'enfermement grâce à ces outils technologiques de toute cette jeunesse.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils sont vraiment effrayants. Il faut extraire les élèves de cette bulle et leur apprendre à communiquer. Rien n'est comparable à la vraie parole. La parole d'un enseignant à ses élèves, la parole d'un parent à ses enfants. On ne peut pas remplacer l'émotion, la sensibilité. Et il faut, je crois, les conjuguer aux nouvelles technologies. Je pense qu'un professeur peut réconcilier les jeunes avec ce monde réel qui leur échappe et qu'ils ne comprennent pas.
Oui, il faut mieux encadrer les élèves dans leur recherche sur Internet et de manière générale, mieux leur faire comprendre aussi les rouages des réseaux de communication en ligne.
Les souris et les lettres.
Une des réponses concrètes que l'on pourrait apporter serait sans doute la modélisation de la pensée, une façon de représenter graphiquement, sous la forme de croquis, de schémas, la pensée, le projet, le contenu. C'est le propos de la rubrique suivante portant sur les cartes heuristiques. Kézako, Adeline Buisson et Philippe Godiveau nous disent tout sur l'utilisation pédagogique et technique de ces cartes.
Alors Kézako, la carte heuristique, on l'appelle de différentes manières. Carte mentale, carte d'organisation des idées. Bon, à mon sens, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle présente des mots, des idées, des informations qui sont reliées entre elles par des branches, hiérarchisant la pensée. Pour ma part, ma préférence va plutôt au terme anglais « mind map » qui définit bien l'objectif de la carte heuristique, c'est-à-dire dessiner la pensée.
Alors Philippe, arrête-moi si je me trompe, mais si j'ai bien compris, le principe de la carte mentale, c'est mettre sur le papier ce qu'il y a dans la tête de l'élève et lui fournir un mode d'expression qui soit personnel.
Comme d'habitude, tu as tout compris.
Oui, mais en fait, elle ressemble à quoi cette carte ?
Alors, cette carte ressemble en fait à un arbre avec ses branches, qui sont liées entre elles, mais surtout qui recourent, et c'est là le plus important, à des éléments visuels. Tout élément visuel possible. Couleur, icône, italique, gras, souligné, taille de la police, images, nuages de couleurs et même des liens graphiques. Tout cela n'a qu'un but, associer les idées, leur donner sens, les mémoriser, se les approprier.
Alors si je veux me lancer dans la carte heuristique avec ma classe de 6e par exemple, en grammaire, je veux faire une carte sur les valeurs du présent. Au centre de la carte, mon tronc sera le présent. À partir de ce tronc, je vais faire partir différentes branches, une pour la valeur, pour chaque valeur du présent en fait, une pour le présent de vérité générale, une deuxième pour le présent de narration, une troisième pour le passé proche, etc.
En fait, tu as tout compris, même si je suis un peu tatillon et qu'au terme tronc, je préfère celui officiel de nœud.
D'accord, donc en fait, on n'est pas loin des schémas qu'on gratouillait avant sur nos copies d'étudiants ou alors sur les croquis finalement qu'on dessine parfois sur le tableau noir. Donc en tant que professeur, ce qu'il me reste à faire aujourd'hui, c'est apprendre à maîtriser le logiciel. Donc finalement, je me rends compte que ces cartes, je peux les utiliser dans plein de domaines différents en cours.
En fait, tous les domaines offrent la possibilité d'avoir recours aux cartes heuristiques. Je te donne un exemple. Ces cartes sont très utiles pour les élèves souffrant de troubles spécifiques du langage. Tu sais, ceux qu'on appelle couramment les 10. Moi, j'enseigne dans une classe où il y a un bon nombre de ces élèves et compte tenu de leur handicap, ils ne peuvent écrire ni mémoriser un cours de grammaire de manière traditionnelle. J'entends là de manière linéaire. J'ai donc recours aux cartes heuristiques qui, en outre, les sollicitent avec des couleurs, des formes et on sait que ces enfants, ils sont très sensibles.
Alors, par extension, c'est très efficace pour les élèves qui ont une mémoire visuelle.
Eh bien, c'est bon nombre de nos élèves, hein, compte tenu de leur culture. Je vous donne un autre exemple. En quatrième, les cartes me servent à définir une méthodologie de la recherche documentaire et de l'exposé oral. Elles permettent en effet de prélever des informations, les associer entre elles, définir un angle d'attaque et de présentation précis. Ça évite aussi que l'élève ne lise ou nanonne son exposé, ce qui est toujours un écueil important. Autre exemple, en troisième, la carte heuristique est devenue pour moi un instrument de travail pour faire comprendre aux élèves ce qu'est un véritable brouillon, c'est-à-dire un document en perpétuelle construction qui associe des réflexions, infirme des hypothèses, collecte des éléments essentiels du propos. Donc un document qui doit rester propre, allant à l'essentiel et demandant une vision synthétique des choses.
Alors on vient de parler de pédagogie, maintenant je voudrais qu'on parle un tout petit peu technique, Philippe. Quel logiciel je peux utiliser ? Parce que j'ai jeté un œil sur Internet, hein, avant l'enregistrement de l'émission et j'ai vu qu'il en existait plusieurs.
Alors effectivement, nous qui sommes au cœur d'Intertis, bon, moi je noterai deux logiciels qui m'intéressent tout particulièrement, les gratticiels FreeMind et son évolution FreePlane, et je vais me cantonner à deux arguments pour vous prouver leur intérêt. Tout d'abord, lorsque j'utilise le logiciel, il me permet au tableau de plier et déplier l'arborescence de la carte. Bon, ça peut sembler très simple, mais ça me permet tout bêtement de gérer le flux d'informations et le temps d'écriture de mes élèves. Ainsi, ces derniers ne peuvent prendre par écrit le cours que lorsque je juge que le raisonnement oral entre pairs est abouti. Deuxième argument, et pas des moindres, par son aspect convivial, intuitif, les élèves peuvent très rapidement s'approprier le logiciel, l'utiliser en parfaite autonomie, ce qui, dans le contexte de ma cinquième avec mes élèves handicapés, est plus qu'indéniablement intéressant.
Alors, en résumé, si je travaille avec les cartes heuristiques avec mes élèves, finalement, ce n'est pas simplement que j'obéis à une mode, c'est qu'il y a derrière une réelle démarche pédagogique.
Oui, c'est intéressant de parler de mode parce que bon nombre de gens pensent que les TIS sont une mode en eux-mêmes. La carte heuristique, non. La carte heuristique favorise la mémorisation, clarifie, organise les idées, elle donne de la cohérence, et quel est l'enseignant qui n'en a pas besoin au sein de son cours?
Oui, et je rajouterais qu'elles correspondent finalement à la manière dont les élèves s'approprient le savoir. Et nous, Clémy, qui sommes dans la construction de l'information, je verrais bien une façon d'utiliser ces cartes pour modéliser le cheminement de l'information depuis le fait constaté, l'événement médiatique jusqu'à l'origine des faits, une façon de montrer comment un fait médiatique s'est construit.
Les souris et les lettres.
La parole est à présent aux élèves et aux chefs d'établissement, ceux qui utilisent dans leur pratique les technologies de l'information et de la communication. Un recueil de témoignages présenté par Serge Bounic.
Oui, alors aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est « Travailler autrement avec les TIS ». Nous allons écouter un document sonore qui présente justement un projet qui a été réalisé au lycée Potier d'Orléans avec le témoignage d'élèves et d'un proviseur adjoint du lycée.
Autour de ce micro sont réunis deux élèves de seconde 11 du lycée Potier d'Orléans. Ils viennent nous parler d'une recherche menée au cours de l'année scolaire en classe de français. Cette recherche utilisait les nouvelles technologies informatiques ainsi que les ressources documentaires de l'établissement. Ronan, peux-tu nous expliquer comment cette recherche a débuté?
Alors, à la fin de la séquence sur le romantisme, nous avons lu le roman de Mary Shelley, Frankenstein. En même temps, notre professeur nous a distribué, donc par binôme, des sujets de recherche pour faire une exposition sur le thème du monstre.
Amanda, peux-tu nous donner des exemples?
Oui, avec Sibi, nous avons travaillé sur La Belle et la Bête. D'autres groupes devaient faire des recherches sur Elephant Man, par exemple, ou bien sur certains personnages historiques qui sont devenus des monstres dans l'histoire de l'humanité.
Et comment cela s'est-il déroulé concrètement?
Au lycée, dans les locaux du CDI, il y a une salle informatique où on peut travailler en binôme, en module. La documentaliste est venue, elle nous a expliqué comment fonctionne BCDI au lycée. La documentaliste nous a montré comment ça fonctionne et surtout que ça permet de travailler par thème. Par exemple, pour notre sujet de La Belle et la Bête, on pouvait voir que ça concernait la littérature et le cinéma, la beauté et la laideur ou encore les métamorphoses.
On a pu commencer à préparer cette recherche à la maison.
Et sur Internet ?
Ça, c'était à la deuxième séance en salle informatique, où on a complété nos recherches sur Internet. Mais en fait, on avait déjà beaucoup d'informations. L'intéressant sur Internet, c'était surtout d'ajouter à nos connaissances des informations plus récentes.
Et puis aussi des images. On a un choix incroyable avec les moteurs de recherche, et on peut modifier son texte en fonction des images.
Des textes, des images, mais qu'en avez-vous fait concrètement?
En fait, chaque binôme devait réaliser un panneau d'exposition, et tout devait tenir dans une seule page de traitement de texte.
Le professeur nous a imposé certains critères. Au début, ça paraissait contraignant. Mais en fait, on s'est aperçu que cette présentation nous obligeait à retenir l'essentiel uniquement de notre thème, tout en recherchant une présentation originale par rapport aux autres binômes.
Nous avons avancé le travail à la maison et nous avons pu améliorer notre présentation en salle informatique grâce au conseil de notre professeur et de la documentaliste.
Et ensuite, qu'avez-vous fait de ce travail ?
Il a été évalué par la documentaliste et les professeurs de français et d'anglais. Ensuite, nous avons imprimé et agrandi ces pages afin de proposer une exposition dans les couloirs du lycée. En plus, la base numérisée des documents va bientôt permettre de reproduire cette exposition sur le nouveau site web du lycée Potier. Comme ça, on aura réalisé deux versions de notre exposition sur les monstres et elle sera vue par beaucoup plus de monde.
Monsieur Jolivet, vous êtes proviseur adjoint du lycée Potier et vous avez écouté Amanda et Ronan parler de ce travail en module de français qui mêlait une recherche avec les documents du CDI et ceux disponibles sur Internet, puis débouchant sur une double exposition à la fois réelle et dématérialisée. Quels sont vos commentaires ?
Alors, dans un premier temps, M. Wooning, je voudrais relever le fait que tout ce travail me paraît extrêmement intéressant. Vous parlez de recherche sur Internet, mais aussi sur BCDI. On a des élèves qui vont travailler sur des affiches, donc sur une exposition, et qui sera reproduite ensuite par le biais du site Internet. Je crois qu'il y a un intérêt fort à travailler sur la complémentarité des outils qui les ont amenés à aller à la fois sur des ressources traditionnelles au centre de documentation et d'information du lycée, mais aussi sur Internet et avec les outils informatiques qui sont disponibles aujourd'hui. Je crois que ce travail sur les compétences permet aux élèves d'appréhender le plus possible, le mieux possible, le monde numérique, sans en délaisser complètement le monde de l'écrit traditionnel, des livres, des ouvrages et des encyclopédies. Fort intéressant. Ça renvoie immédiatement à l'idée que le professeur a su mettre en place des pratiques pédagogiques porteuses, intéressantes, motivantes, où vous vous êtes pleinement investi et où vous avez, tout en apprenant, tout en complétant vos connaissances, hein, vos pratiques autour de la maîtrise de la langue française, développer d'autres aspects qui vous ont amené à aller plus loin et à faire des recherches sur des domaines que vous n'auriez peut-être pas eu l'occasion de faire en cours de français. Voilà, autre point qui me paraissait intéressant, vous l'avez abordé en fin de votre exposé, c'est tout le domaine de la transdisciplinarité. On a vu que vous aviez la nécessité ou le besoin de traduire, d'exposer en anglais. Je crois que l'outil informatique est extrêmement porteur sur ce genre de pratiques pédagogiques là aussi, où on va associer différentes disciplines. C'est valorisant et ça permet aussi de préparer pour les élèves qui seront en première, les TPE, hein, où on est dans ce champ de transdisciplinarité, travaux pratiques encadrés qui vont vous permettre d'associer plusieurs disciplines. On a déjà un petit peu cette dimension-là dans le travail que vous avez pu faire.
Voilà un témoignage très intéressant qui a permis à la fois de recueillir les avis des jeunes et leur satisfaction, et à la fois celui du chef d'établissement, appréciant le travail mené, hein, et son impact pour l'image de l'établissement.
Les souris et les lettres.
Voilà, quatrième rubrique à présent, nos élèves et le réseau. Maîtriser la recherche documentaire n'est pas si simple que cela. Après tout, c'est un métier, hein, celui qui va du référencement en passant par l'attribution de tags, de mots-clés qui orchestre la recherche sur Internet de l'internaute. Car aujourd'hui, l'important n'est plus de chercher, mais de trouver. C'est ce que nous proposent Baptiste Voisin, Rachel Pinault et Serge Bounic.
Proposer aujourd'hui une recherche documentaire à des élèves revient à les lâcher seuls en haute mer sur un radeau minuscule sans aucun matériel de navigation. Et on attend d'eux qu'ils parviennent à trouver leur route dans cette immensité ? Mais on s'aperçoit vite que les élèves sont souvent perdus et ne savent comment choisir parmi les millions de sites auxquels renvoient les moteurs de recherche. Ils se jettent donc sur le premier lien, ou bien piochent au hasard jusqu'à ce qu'ils trouvent une sorte de réponse, une solution quoi, à leur problème, et non plus l'information recherchée au départ.
Baptiste, tout ce que tu dis n'est pas faux, mais si on aborde la question de l'usage des TIS uniquement en termes d'obstacles, on risque de rester dans l'immobilisme. Il me semble qu'il faut relever ici une sorte de défi pédagogique. Ce défi est un effort d'adaptation aux nouveaux outils de recherche et que les élèves attendent que nous utilisions, car ils font partie de la réalité de notre époque.
Consolidons ton navire, Baptiste, et soyons concrets. Il est possible de sélectionner des sites pertinents et fiables en vérifiant l'identité des rédacteurs, la nature personnelle, officielle ou commerciale du site. On peut mettre ses adresses sur un document numérique, les élèves n'auront plus qu'à cliquer et il y a moins de risques de s'égarer. Je pense aussi à des séances de méthodologie sur la recherche documentaire, comment utiliser les moteurs de recherche, les métamoteurs, les portails et les annuaires de sites.
Bon, pourquoi pas, mais malgré toute cette bonne volonté, il faut quand même bien reconnaître qu'une immense majorité des recherches débouche inévitablement sur cette nouvelle bible du savoir qu'est Wikipédia. Une sorte de pot commun dans lequel chacun peut jeter les informations qu'il considère comme vraies, et sans pour cela avoir à justifier d'une quelconque autorité.
Oh là, Baptiste, il faut qu'on s'arrête de clouer Wikipédia au pilori. Certes, cette encyclopédie semble assez hégémonique sur le web, mais on peut aussi se satisfaire de la victoire d'une encyclopédie gratuite, collaborative, sur des encyclopédies commerciales appartenant à des multinationales. Sa fiabilité est de moins en moins l'objet de controverses. D'ailleurs, une étude de 2005 de la revue Nature montre que la valeur des articles de Wikipédia est sensiblement identique à celle de l'encyclopédia Britannica.
Bien, mais malgré cela, très franchement, n'y a-t-il pas un risque pour nos élèves de prendre pour argent comptant les élucubrations de quelques savants autoproclamés et ainsi de construire leur savoir sur des bases chancelantes ?
C'est vrai que ces risques existent et s'il y a une attitude à avoir avec Wikipédia, mais dans toute recherche documentaire, c'est de toujours vérifier, confronter, comparer les informations et c'est ce que nous devons apprendre à nos élèves. Un exemple pratique, on peut travailler sur la source d'un article de Wikipédia et montrer à nos élèves tout ce qui se cache dans l'historique et dans les discussions. C'est le moyen de les initier à l'écriture de l'encyclopédie collaborative dont on aurait bien tort de se passer, comme disait Serge.
Mais en réalité, le problème de Wikipédia doit être finalement élargi à l'usage du copier-coller dans la recherche documentaire. Souvent, aujourd'hui, la recherche est bouclée en 5 minutes, sans même bouger de son écran. L'information n'est pas analysée, ni même lue quelquefois. Et c'est souvent le paragraphe complet qui est copié. Donc le vrai problème, c'est que les élèves n'exercent pas de regard critique sur la pertinence de la sélection.
Oui, Baptiste, on doit effectivement partir du constat que cette tendance au copier-coller est malheureusement partagée jusque chez les étudiants, et même dans certains journaux dits de référence. Mais au tout début de l'utilisation de l'informatique dans le cadre scolaire, certains élèves photocopiaient des pages et des pages sans même les lire. Et cette époque semble révolue, ce qui prouve qu'un progrès est possible.
Donc, le professeur ne doit pas se déclarer battu sans lutter. Il y a tout un travail fort intéressant à mener avec nos élèves sur la réappropriation et la reformulation des informations. Je pense par exemple à une séance où les élèves sélectionnent les informations de manière manuscrite et puis les réécrivent sur un traitement de texte de manière plus personnelle.
D'accord, mais alors où s'arrête la reformulation et où commence le plagiat pur et simple ? Les élèves n'ont pas souvent, au collège en tout cas, une conscience aiguë de l'éthique et ils cherchent plutôt à remplir du papier ou même, devrais-je dire, de l'écran.
Je suis pas d'accord, Baptiste, sur cette absence de conscience. Nos élèves n'aiment pas que leurs copains leur prennent des idées qu'ils jugent personnelles et originales, par exemple dans leurs travaux d'invention. Je crois qu'ils sont tout à fait à même de comprendre qu'ils font la même chose avec le copier-coller, qu'il y a derrière l'ordinateur des individus qui ont travaillé pour fournir au public les informations librement disponibles.
Mais sur ce point précis, Rachel, Serge, vous devez bien reconnaître, malgré tout, que on ne connaît pas les règles de propriété sur Internet, qu'il s'agisse des élèves, mais même des adultes, et très souvent des profs eux-mêmes.
Oui, mais justement, en tant que professeur de français, on peut aussi associer l'idée du respect de droit d'auteur à l'histoire littéraire, par exemple en utilisant le rôle de Beaumarchais dans ce domaine. On peut également ouvrir plus largement le débat dans le cadre d'une instruction civique, où le professeur de français a aussi son rôle. Cela se fondera par exemple sur la charte informatique de nos établissements, qui est un support adéquat pour mener cette réflexion avec les élèves.
Donc, si je tiens compte de toutes vos remarques, il me semble que finalement, ces nouvelles technologies soient des outils certes complexes, mais riches et dont les usages sont encore en devenir. L'essentiel est certainement que tout le monde, élève comme prof, tente d'en faire la meilleure utilisation, malgré certaines faiblesses que nous avons reconnues ensemble ou certains défauts qu'il faut connaître pour y remédier. La recherche documentaire est finalement face à un renouvellement profond de ses pratiques. Et nos élèves ont besoin d'être accompagnés avec lucidité afin que leur bonne volonté puisse s'épanouir dans la découverte raisonnée des richesses foisonnantes du web.
On en revient toujours au même. Il faut donc accompagner au mieux les élèves dans les méandres de l'information. Internet a le goût de l'espace de liberté, mais conditionné, comme toute forme de liberté d'ailleurs, celle qui profite à tout le monde. Il devient donc indispensable de penser une manière raisonnée de faire une recherche sur la toile sans se pendre au filet. Parole à Christian Perrier, le site du jour, des mots pour voir. Qui fête ses 10 ans, Christian ?
Alors effectivement, le concours des mots pour voir a été créé il y a 10 ans pour contribuer au développement d'une forme d'écriture créative à partir de l'image. C'est donc un concours d'écriture qui s'adresse à tous les jeunes francophones et qui consiste à écrire un texte inspiré par une image qui est mise à la disposition des participants. Alors le concours n'a cessé de se développer. Et à ce jour, nous avons enregistré 15 674 participations depuis 10 ans dans 80 pays. Ce qui a permis cet essor, c'est notamment l'utilisation du réseau et d'un site permettant l'automatisation de nombreuses tâches afférentes au concours. Alors je veux donner avant tout la parole à ceux qui ont fait vivre cette manifestation, c'est-à-dire les professeurs qui ont amené leurs élèves à participer et les élèves eux-mêmes. Alors nous allons d'abord écouter des collègues du lycée Bossuet de Lannion, qui a cette particularité d'avoir participé au concours depuis son origine, c'est-à-dire pendant 10 ans et cette année encore.
Nous menons ce projet depuis 10 ans auprès des classes de seconde, car au début c'était un moyen pour eux d'approcher le CDI et de s'initier à l'informatique. Effectivement, moyen d'approcher l'art, la photographie, la peinture, sans aller dans des salles, mais simplement par le biais de diaporamas ou autres.
Il s'agit également d'un travail d'écriture, donc intéressant, qui sert de préparation ou en tout cas d'initiation au sujet d'écriture d'invention, qui est un des trois sujets demandés à l'épreuve anticipée de français en première. Et c'est également un travail sur la lecture de l'image qui est mené avec les documentalistes, notamment sur les heures de module au CDI, qu'ils peuvent réinvestir après dans divers travaux pratiqués en français ou dans d'autres matières.
Dans un premier temps, c'est le moyen de réinvestir des connaissances, comme vous le disait ma collègue, en matière de lecture de l'image. Ils peuvent effectivement ensuite aller dans des salles d'exposition. Ici, nous avons à Lannion l'imagerie, qui est une salle d'exposition photographique. Donc en autonomie, ils ont quelques outils pour entrer dans la photographie. Mais aussi sur le plan d'écriture, c'est le moyen de révéler un élève à lui-même et bien entendu aussi au professeur.
C'est un moyen de s'exercer à l'écriture sous contrainte, et puis c'est avant tout un exercice motivant étant donné qu'il s'agit d'un concours. Il faut savoir que toutes les productions des élèves sont visibles au CDI dans un recueil qui est accessible donc aux élèves, et chacun d'entre eux peut aller lire les productions de son camarade.
Alors, nous allons maintenant écouter deux élèves du lycée Seccioni de Livourne, en Italie donc, et qui font part de leur expérience du concours de cette année.
Bonjour, je m'appelle Fabio Berti, je suis du lycée Francesco Cecconi en Italie. Pour moi, à propos de ce concours, je pense à la valeur de la raison Internet, parce que sans Internet, on ne pouvait pas partager les images, corriger des tests et la diffusion du concours entier. On peut dire qu'Internet a permis le concours et aussi la langue française sur Internet a créé une sorte de pont francophone dans tout le monde.
Bonjour, je m'appelle Ilaria Carriero et je suis du lycée Linguistico Cecconi en Italie. Je crois que c'est important de travailler en ligne dans un contexte pédagogique avec des francophones qui ont des points de vue et des cultures différents par les nôtres, et c'est important d'être corrigé en réseau Internet par des correcteurs et avoir la possibilité de voir les textes des autres personnes qui sont loin de nous, millions de kilomètres.
Alors maintenant, nous allons tenter une expérience inédite dans Des souris et des lettres, en essayant de joindre Stéphane Gulesserian, qui travaille dans un collège à Hong Kong. Donc nous allons essayer de l'avoir en direct, puisque ce collègue a fait participer cette année plusieurs élèves au concours, et qu'une jeune fille de ses élèves donc, a gagné le deuxième prix en français langue étrangère. Alors nous allons d'abord écouter Maria, donc cette lauréate, avant d'essayer de joindre Stéphane.
Bonjour, je m'appelle Maria, j'ai 16 ans. Je suis très contente d'avoir gagné le deuxième prix au concours de mon pouvoir. J'ai choisi la photo qui s'appelle Hermira. Je l'ai trouvée bizarre. En la voyant, je me suis demandé pourquoi cette femme a la tête complètement recouverte d'un foulard. J'ai pris un moment pour penser à une histoire. Puis, j'ai commencé à écrire une première version de mon texte. Mais je n'étais pas satisfaite parce que je ne parlais pas assez de la photo. Où avait-elle été prise? Qui l'avait prise? Je ne répondais pas à ces questions. J'ai demandé des conseils à mes amis. Grâce à ces conseils, dans ma nouvelle version, j'ai imaginé qui avait pris la photo, où et pourquoi. Je ne pensais pas pouvoir gagner, mais mes amis m'ont dit que mon écriture était impressionnante et que je pouvais gagner. Je ne les ai pas cru, mais maintenant, avec ce second prix, j'ai plus confiance en moi et je sais que je peux bien écrire. Merci aux organisateurs des concours et bonne chance aux futurs participants.
Alors, on va essayer de joindre Stéphane Gulusserian. Donc Stéphane, vous êtes au bout du fil. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter votre établissement pour commencer ? Oui. Donc. Oui, donc je parle en même temps car j'ai Stéphane au bout du fil, mais on n'arrive pas à retransmettre directement. Donc Stéphane me dit que son collège est un. Il enseigne dans un collège un peu particulier, puisque contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce ne sont pas essentiellement des élèves chinois qui sont dans cet établissement, mais des élèves qui viennent d'Inde, du Pakistan. D'ailleurs, Maria, la lauréate, est une jeune pakistanaise, si j'ai bien compris. Et donc, ce sont des élèves qui apprennent une langue étrangère pour s'éviter d'apprendre le mandarin. C'est cela, Stéphane? Oui. Ils apprennent... Oui. D'accord. Voilà, ils apprennent le mandarin, mais à l'examen, ils ne sont pas obligés de passer. Voilà. Alors, est-ce que vous pourriez, je vais répéter vos paroles directement, puisqu'on ne peut pas vous retransmettre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous avez connu le concours et est-ce qu'il vous a apporté, est-ce qu'il a apporté dans votre classe? Donc, vous l'avez connu, oui, par l'Association des professeurs de français, oui. Oui, oui. Donc c'était pour vous l'occasion d'ouvrir la classe sur le monde extérieur et de lire un site en direct, un site directement en français, voilà. Hein. Et donc ça a été un contact différent pour vous que le manuel et le livre habituel. Bien, écoutez, il est dommage qu'on n'ait pas pu vous entendre en direct, mais bon, ça pose vraiment un problème parce que quand vous parlez, les auditeurs n'entendent rien puisque je suis obligé de retranscrire. Éventuellement, on pourra reprendre un enregistrement dans des conditions différentes. En tout cas, merci beaucoup, Stéphane, et encore bravo à Maria. Encore bravo à Maria d'avoir participé et réussi à ce concours. Merci, à bientôt, au revoir Stéphane.
Voilà, quelques petits soucis techniques, hein, ça arrive, surtout faire un direct à partir d'un combiné téléphonique, c'est pas toujours évident. Effectivement, ce sera l'occasion peut-être de le rappeler ultérieurement et d'en faire un podcast pour écouter ses propos. Tout ça est possible grâce donc à Démo pour voir. Hein. Moi, je me souviens avoir pris connaissance de ce concours lors de mon premier festival TIS d'Orléans-Tours.
Hein. Oui. J'ajoute que nous fêterons ce 10e anniversaire de manière un peu plus solennelle le 4 juin à partir de 16h30 au lycée Marguerite de Navarre.
Voilà, donc le rendez-vous est donné. Longue vie à Démo pour voir, qui reflète de par son nom la convergence en fait, des médias numériques qui conjuguent en un même espace, tous nos sens où se mêlent les verbes voir, écrire, écouter, lire, et j'en passe. Voilà, c'était Des souris et des lettres en direct d'Intertis. Merci à Adeline Buisson, professeur de collège à Orléans, Philippe Godiveau, professeur de collège à Nogent-le-Roi, coordonnateur aussi du groupe TIS Lettres, Serge Bouny qui est professeur de lycée à Orléans, Rachel Pinault, professeur de collège à Houck, Baptiste Voisin, professeur de collège à la Guerche-sur-Laubois, Christian Perrier, professeur de lycée à Bourges. Cette émission a été enregistrée en direct d'Intertis. Merci au CRDP de Versailles. Vous pourrez la retrouver comme d'habitude sur la web radio d'Orléans Tours. Vous pourrez aussi par mail adresser vos avis et commentaires à dessouridelettres@ac-orléanstours.fr. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin d'année d'ailleurs scolaire à tous et à tous. Et puis à la prochaine fois. Merci.